Guillaume Apollinaire, Hérésiarque et compagnie, le juif latin. Un matin, je dormais, vivant en un beau songe. Un violent coup de sonnette m'éveilla. Je me dressai, jurant en latin, en français, en allemand, en italien, en provençal et en wallon. Je passai un pantalon, mis des savates et allai ouvrir. Un monsieur que je ne connaissais pas, mais d'apparence correcte, me demanda un instant d'entretien. Je fis entrer l'inconnu dans la chambre qui me sert de cabinet de travail, salon et salle à manger, le cas échéant. Il s'empara de l'unique fauteuil. Pendant ce temps, dans la chambre à coucher, je précipitai une toilette sommaire en regardant mon réveil matin qui marquait 11 heures. Je plongeai ma tête dans la cuvette et tandis que je frottais mes cheveux mouillés, le monsieur s'écria « Je ne suis pas un poireau !» Les cheveux en désordre, je pénétrai dans la pièce où je vis ce monsieur penché sur un restant de pâté que j'avais oublié de cacher. Je m'excusai, demandai la permission de passer un veston et portai le plat dans la chambre à coucher. Lorsque je revins, le monsieur me dit en souriant « J'ai lu le passant de Prague et j'ai vu que vous m'aimiez. » Je balbutiai sans oser nier à cause que je m'imaginais avoir affaire à un éditeur original qui, séduit par ma littérature, venait m'en demander contre espèce. Il continua. « Je me nomme Gabriel Ferdisoun, né en Avignon. Vous ne me connaissez pas, mais vous aimez les Juifs, donc vous m'aimez, car je suis juif, monsieur. » Je ris en disant que par conséquent, il était vrai que je l'aimasse, mais Ferdisoun m'interrompit, s'écriant « Halte là, ne m'aimez pas. Vous êtes indécent, mon ami. Vous avez la gueule de bois ce matin, mon pauvre, et vous osez parler d'amour. » Je me récriai, protestant que mes mœurs étaient pures et que je ne m'étais pas couché plus tard qu'à 1 heure du matin. Ferdisoun se réinstalla dans le fauteuil. Je pris une chaise. Il parla. « J'y consens, vous n'êtes pas amoureux, puisque je vous vois raisonnable, je vais élucider votre sympathie pour les Juifs. Quel Juif préférez-vous ? » À cette question bizarre, je répondis pour le flatter. « Oh, ceux d'Avignon, cher monsieur, et parmi ceux-là, je préfère les prénommer Gabriel, nom qui se termine en « L » comme les paroles qui ne sont les plus chères, « ciel » et « miel ». Mots finissant en elle comme les noms des anges, le ciel que l'on médite et le miel que l'on mange. » Ferdisoun rit bruyamment et triomphant s'écria « Nous y voilà donc, Boudiou. Dites-le crûment et sans embâge, ce sont les Juifs du sud de l'Europe occidentale que vous préférez. Ce ne sont pas les Juifs que vous aimez, ce sont des Latins. Oui, des Latins. Je vous ai dit que j'étais juif, monsieur, mais je parlais du point de vue confessionnel. À tous autres égards, je suis latin. Vous aimez les juifs dits portugais, qui jadis faussement convertis, tardent leur parrain espagnol ou portugais, des noms espagnols ou portugais, mais vous aimez les juifs dont les noms sont catholiques, comme Santa Cruz ou Saint-Paul. Vous aimez les juifs italiens et ceux français, dit Constadin. Je vous l'ai dit, monsieur, je suis né en Avignon, issu d'une famille établie depuis des siècles. Vous aimez les noms comme Musca ou Ferdisoun. Vous aimez des latins, et nous sommes d'accord. Vous nous aimez parce que, polonais et Constadin, nous ne sommes pas maudits. Non, 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 nous ne le sommes pas. Nous n'avons pas trempé dans le crime judiciaire accompli contre le Christ. La tradition a fait foi et la malédiction ne nous atteint pas. » Ferdisoun s'était dressé, rouge et gesticulant, tandis que, resté assis, je le regardais bouche bée. Il se calma, regarda autour de soi, et me dit avec une moue de dédain, « Vous êtes bien mal installé, Boudiou. Au demeurant, je m'en bats l'œil, mais enfin, vous devriez posséder quelques boissons délicates. Vos visiteurs vous en seraient gré. » J'allai à la cheminée, en soulevai le manteau, et pris dans les cendres un flacon de vieille liqueur aux poires bergamotes. Ferdissou le déboucha, tandis que je lui cherchais une tasse. En même temps, je lui vantais la finesse de cette liqueur que je tenais d'un distillateur de Durkheim dans le Palatinat. Sans m'écouter, il remplit sa tasse jusqu'au bord et la vida d'un trait. Ensuite, il secoua soyeusement les dernières gouttes sur le parquet, tandis que je m'excusais. « Ah oui, vous auriez préféré un bol !» Ferdissou ne daigna pas répondre sur ce point. Il continua. « Eh bien, au fait, vous avez raison, vous, latins, de nous aimer, nous, juifs latins. Car nous appartenons aux races latines, autant que les Grecs et les Sarrasins de Provence et de Sicile. » Nous ne sommes plus des métèques, pas plus que tous les individus hétérogènes que les grandes invasions ont fait se mêler aux Romains de l'Empire. Nous sommes en outre les meilleurs propagateurs de la latinité. Dans la plupart des milieux juifs de Bulgarie et de Turquie, quelle langue parle-t-on, sinon espagnol ? Ferdissoun but une nouvelle rasade de liqueur aux poires bergamotes, puis fouillant dans son gilet, il en tira un cahier de papier à cigarettes. Il me demanda du tabac. Je lui entendis avec des allumettes. Ferdissoun roula une cigarette, l'alluma, et jetant triplement de la fumée par la bouche et les narines, il reprit. « Oh, somme, qu'est-ce qui a fait la différence entre des juifs et des chrétiens ? C'est que les Juifs espéraient un Messie, tandis que les chrétiens s'en souvenaient. Nietzsche s'était approprié l'idée juive. Combien de latins se sont imprégnés de l'idée de Nietzsche et espèrent ce surhumain peu messianique, duquel proclame la venue de Zarathoustra, emprunté au vendre d'Idan, où il célèbre la parole sainte, la très brillante, le ciel qui s'est prescrit lui-même, le temps infini, l'air qui agit là-haut, la bonne loi mazdéenne, la loi de Zarathoustra contre les Darvas. Nous, juifs latins, nous n'avons plus d'espoir. Les propriétés nous avaient promis le bonheur matériel, nous l'avons. La France, l'Italie, l'Espagne ne nous traitent plus en étrangers. Nous sommes libres aussi, n'ayant plus rien à désirer, nous n'espérons plus, et je consens, le Messie est venu pour nous comme pour vous. Et je puis l'avouer, au fond du cœur, je suis catholique. Pourquoi demanderez-vous ? À cause qu'il n'y a plus de religion hébraïque en France. Les Juifs russes, polonais, allemands ont conservé une religion extérieure. Leurs rabbins connaissent, enseignent et fortifient la religion. Mais nous autres, nous mangeons des rôtis cuits au beurre, nous baptisons de la cochonaille, mais sans nous soucier de Moïse ni des prophètes. Pour moi, j'adore les buissons d'écrevisses, des soupes galants, j'ai même un faible pour les escargots. L'hébreu, c'est à peine si la plupart d'entre nous le savent, lire au moment d'être bar mitzvah. Nos savants hébraïsants font sourire les rabbins étrangers, et la traduction française qui exige du Talmud est, on dirait, des juifs allemands ou polonais, un monument de l'ignorance des rabbins en France. Donc j'ignore la religion juive, elle est abolie comme le paganisme, ou plutôt, non, de même que le paganisme. Elle survit dans le catholicisme, qui n'attire pas ses théophraties surtout. Le judaïsme alexandrin ne fit plus qu'à des théophanies mosaïques. elles parurent à cette époque fabuleuses et grossières. Le catholicisme a fait ici la théophanie des dogmes divers. Ce miracle se renouvelle chaque jour à la messe. L'histoire du Sacré-Cœur fait délirer mon âme ancienne de juif latin, épris des théophanies et des anthropomorphismes. Je suis catholique, sauf le baptême. C'est fort simple, dis-je, faites-vous baptiser. Le baptême est un sacrement que n'importe qui peut vous administrer, homme, femme, juif, protestant, bouddhiste, mahométan. Je le sais, dit Ferdisoum, mais je ne veux pas m'en servir que plus tard. En attendant, je m'amuse. Les effets du baptême sont d'effacer tous les péchés. Comme on ne peut en user qu'une seule fois, vous voulez retarder le plus possible cet instant. Mais vous y êtes, je n'espère plus le Messie, mais j'espère le baptême. Cet espoir me donne toutes les joies possibles. Je vis pleinement. Oh, je m'amuse superbement. Je vole, je tue, j'éventre des femmes, je viole des sépultures, mais j'irai en paradis, car j'espère le baptême et l'on ne dira pas le kadosh pour ma mort. J'insinuais, ben, vous exagérez peut-être, je vois trop imbu de certaines littératures. Mais prenez garde, la mort vient comme un voleur, à pas de loup, à l'improviste. Et si j'avais ce bonheur que vous avez d'être croyant, j'ajouterais que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Au fait, quel livre lisez-vous? Cela vous intéresse-t-il? Bah, voici ma bibliothèque, elle est édifiante. Il sortit de sa poche deux livres fatigués que je pris. Le titre du premier bouquin était « Catéchisme du diocèse d'Avignon ». Celui du second, « Les vampires de la Hongrie », par Dom Calmet. Ce dernier titre m'effraya plus que n'avait pu le faire la déclaration criminelle du juif latin. Je compris qu'il ne se vantait point, et qu'érudit et sanguinaire, l'homme à qui j'avais affaire, était un maniaque du meurtre. Je regardai rapidement autour de moi en l'espoir de découvrir une arme pour me défendre au cas où Ferdisoun ferait le forcené. Je vis sur une étagère à portée de ma main un petit revolver à parfumerie qui, détérioré et sans valeur, aurait dû être juste rejeté depuis longtemps. Cet objet me sauva la vie en l'occurrence, car Ferdisoun, profitant de ce que je détournais les yeux, avait tiré un couteau passé à sa ceinture sous ses vêtements. Je laissai tomber les livres et saisis précipitamment la minuscule et illusoire arme à feu que je braquai sur le juif latin. Il pâlit et trembla de tous ses membres, implorant. « Grâce, vous méprenez !» Je criai, « Assassin, va perpétrer ailleurs des crimes que tu crois pardonnables. Les principes ne me permettent point de te dénoncer, mais je souhaite que dès ce soir, tes sauvageries trouvent un châtiment. Ta lâcheté, j'espère, limite le nombre de tes victimes, et ta loquacité te signalera à la police. Il y a des juges à Paris, et si tu reçois le baptême, que ce soit avant de monter à l'échafaud. » Durant que je parlais, Ferdisoun ramassa ses livres et, se relevant, me demanda fort civilement pardon pour m'avoir effrayé. Je lui ordonnai de m'abandonner son couteau, qui était une lame catalane très dangereuse. Il obéit, puis sortit, toujours menacé par le ridicule petit revolver à parfumerie que je n'avais pas lâché. Le soir, par économie, je soupais chez moi de charcuterie et du restant de pâté sur lequel Ferdisoun s'était penché. Je n'avais aucune idée du danger que je courais, mais je connus bientôt la noire sœur d'âme du juif latin. Je fus pris de douleurs d'entrailles intolérables. le pâté était empoisonné. Ferlissoun l'avait arrosé ou saupoudré avec quelques drogues infectes qui m'auraient tué en peu d'heures si je n'avais bu une burette d'huile puis une fiole de glycérine. Je provoquais des vomissements salutaires. Je courus acheter du lait et par bonheur, je mentirais sans médecin. Les jours suivants, les journaux se trouvèrent remplis par les récits de crimes sensationnels commis sur des femmes dans tous les coins de Paris. L'une d'elles fut trouvée nue, tendue comme un drapeau flottant et fichée sur un pieu planté au milieu du boulevard de Belleville. Des enfants, des vieillards furent égorgés. On remarquera qu'il ne s'agissait que d'être faible. Des passants, hommes ou femmes, dans la foule qui se presse sur les boulevards à la tombée de la nuit, eurent la cuisse ou le bras entaillé par un rasoir qui d'un seul coup pénétrait les vêtements puis la chair. Le rasoir taillait sans douleur et les malheureux ne tombaient baignés dans leur sang qu'au bout de quelques pas. Les assassins demeurèrent inconnus. On attribua les premiers crimes aux bandes d'apaches et autres tatoués qui effraient nos âmes meilleures et désolent ceux qui croient à la perfectibilité humaine. Les autres forfaits furent mis sur le compte d'un de ces maniaques qui pullulent et qui ne ressortissent pas à la cour d'assises, mais à la salpêtrière. Je fus souvent tenté de dénoncer l'auteur de tous ces crimes, car je me doutais bien que c'était le catéchumène Gabriel Fernissoun qui agissait en l'attente du baptême. L'égoïsme triompha. J'avais échappé au monstre, je l'ai laissé agir sans le dénoncer. Au bout de quelques mois, je me trouvais avec une de ces bandes hétéroclites qui fréquentent les tavernes du quartier latin. Nous étions à la Lorraine, attablés devant des absinthes que nous troublions méthodiquement. Il y avait là, avec moi, un de ces petits journalistes qui écrivent de vagues chroniques en troisième page de Canard mi-mort, donnent des échos au grand quotidien et quémandent dans les maisons de commerce des commandes de publicité. Il y avait aussi, en casquette et manteau de peau de phoque, un de ces chauffeurs qui fréquentent tous les fabricants de l'avenue de la Grande Armée, ont toujours quelque chose d'auto à vendre, étant sans cesse sur le point d'en acheter, connaissent à fond les autos de toutes marques et vous tapent de 100 sous à l'occasion. Il y avait un élève de l'école des Beaux-Arts et un fonctionnaire des colonies récemment revenu de la Martinique. Il avait raconté pour la troisième fois l'éruption du Mont Pelé. Le journaliste parlait de faire un poker. L'élève des Beaux-Arts bâilla en s'exprimant le désir de jouer avec le joker. Le chauffeur dit « Ah, voilà Philippe !» Philippe, étudiant douteux mais chic, très beau garçon, arrivait avec la grande Nella. Celle-ci était une assez belle brune. Son corset, descendant très bas selon la mode, la faisait paraître stéatopige, mais la providence était illusoire. Ceux qui connaissaient Nadia intimement lui daignaient la calipigie. Philippe nous serra la main, se défit de son chapeau et de son raglan, arrangea sa coiffure, sa cravate, et s'assit en face de Nella à la table voisine. Il commanda un chambéry fraisette pour soi et un quinquina pour Nella. Puis, se tournant vers nous, il déclara « J'en ai une bonne. Nella veut se faire religieuse. » Le chauffeur cria « Mais il n'y a plus de congrégation !» Le journaliste dit qu'il fallait une forte dot. Nella affirma « Je veux me faire petite sœur des pauvres. » Nous rîmes bruyamment, puis demandâmes en cœur « Et pourquoi ?» Philippe ricana. « Bon, c'est une histoire à dormir debout. Voyons, raconte ça, Nella. » « Oh, la barbe !» fit Nella. Mais, sur nos instances, elle se décida. Mais voilà, j'avais une affaire rue de la Pépinière, près de la place Saint-Augustin, et je revenais par le boulevard Malesherbes avec l'intention de prendre l'omnibus à la Madeleine. Tout à coup, au coin de la rue des Mathurins, un homme se dressa devant moi en criant: Oh, madame ou mademoiselle, je suis juif, je vais mourir, baptisez-moi. J'avais peur, il était près de minuit. Je voulus courir, mais le monsieur qui haletait s'accrocha à mon bras en me suppliant. Je suis un grand criminel, mon dernier crime, oh, le plus exécrable, et que je viens de m'empoisonner. Tout à l'heure, j'ai pensé qu'après tout, il se pourrait que je mourusse sans baptême, et j'ai voulu finir par un suicide qui me laisserait encore le temps de me faire baptiser. Oh, je me repens, madame, et je vous supplie. Il y a de l'eau dans le ruisseau au bord du trottoir. Vous n'avez qu'à m'en verser sur la tête en disant: Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pressez-vous, le poison fait son œuvre et je me sens mourir. Des passants, s'étant arrêtés, nous regardaient curieusement. Le monsieur sentait les forces lui manquer. Il se coucha sur le trottoir. J'eus pitié de ce moribond qui m'implorait. Avec ma main, je puisais de l'eau qui stagnait dans le ruisseau et je baptisais ce juif comme il m'avait demandé, tandis qu'il criait douloureusement: Mea culpa, mea culpa. À ce moment, des agents survinrent. Le nouveau baptisé délirait: Je suis chrétien! Oh, que je souffre à boire! Le ciel s'ouvre! Et il mourut en se convulsant pendant que les agents l'emportaient. Je dus les suivre au poste. Cette affaire m'a occasionné quelques démarches chez le commissaire de police. On en a un peu parlé dans les journaux, mais d'autres événements plus importants prennent en ce moment l'attention du public. Je n'ai pas eu la réclame qu'un moment j'avais espérée. Le juif s'appelait Gabriel Ferdissoun. On trouva sur lui un testament par lequel il laissait sa fortune à l'archevêque de Paris, à charge pour lui de l'employer à hâter la conversion des juifs, fait qui doit se produire peu avant la fin du monde. En attendant, il m'a converti, moi. Je n'aurai plus de repos avant de m'être faite petite sœur des pauvres, et cela ne tardera pas. Figurez-vous que tous ceux qui ont approché le cadavre de Fernissoun ont été étonnés de la bonne odeur qu'il exhalait. Le commissaire m'a dit que les médecins peuvent expliquer ce fait qui se produit quelquefois. Bien pour moi, je trouve cela miraculeux. De plus, des deux agents qui portèrent le cadavre au poste, l'un avait ri, pensant avoir affaire à un ivrogne. Il mourut d'une rupture d'anévrisme le lendemain. Le second avait essuyé avec son mouchoir la bave qui vint aux lèvres de l'agonisant, puis il lui avait fermé les yeux. Il vient de faire un héritage qui le fait riche pour le reste de sa vie. Je tiens ces fêtes de ce dernier agent que je revis chez le commissaire de police. Cette histoire avait ennuyé tout le monde. Le journaliste était parti des premiers en disant qu'il ferait un écho au sujet de Fernissoun et de Nella. Mais je pense qu'il y renonça, l'histoire étant trop cléricale et digne des bollandistes. Le chauffeur, l'élève des beaux-arts, avait payé leur consommation, puis était parti sans rien dire. Philippe avait demandé un jaquet, et je partis enfin, assez triste, laissant la convertie et son amant aux délices du jaquet. Le lendemain, je vis un de mes amis qui est prêtre. Je lui racontai l'histoire de Fernissoun par le détail, depuis la visite qu'il me fit jusqu'aux phénomènes qui suivirent son décès. Le prêtre m'écouta attentivement et me dit: Ce Gabriel Fernissoun est certainement en paradis. Le baptême l'a lavé de tous ses péchés. Et c'est mêlé à la troupe des innocents qu'il vaque à l'adoration perpétuelle. il grossit le nombre des saints aérières que l'Église honore le jour de la Toussaint. Je quittai mon ami là-dessus. Mais j'appris depuis qu'avec l'assentiment de l'archevêque, qui vient d'hériter de la très grosse fortune de Fernissoun, il établit un dossier sur le cas bizarre et édifiant de ce juif qui, ayant vécu en criminel, fut sauvé parce qu'il eut la foi. Ce prêtre obtenit les dépositions écrites de l'agent de Nella, du commissaire de police. Je lui ai promis la mienne. Dans 50 ans, le procès de canonisation de Gabriel Ferrissoun viendra à Rome. L'avocat de Dieu aura le beau rôle. Durant la minute qui se passa entre son baptême et sa mort, Ferdissoud ne fut qu'édifiant et admirable. Et sa vie précédente, lavée dans l'eau baptismale, ne compte pas au point de vue religieux. Les miracles opérés par son cadavre paraîtront incontestables. La science est ridicule qui essaie d'expliquer par des moyens naturels la bonne odeur exhalée par un corps mort. De plus, ce cadavre opéra une conversion, car Nella, poussée, il est vrai, par le prêtre, est en effet devenue une religieuse et édifie ses compagnes du couvent à cette heure. Les deux miracles accomplis sur les agents sont patents. Les incrédules peuvent invoquer le hasard à propos de morts subites et d'héritages inattendus, mais le hasard n'a rien à faire dans le procès de canonisation. La seule chicane dont l'avocat du diable pourra tirer parti portera sur l'eau ayant servi au baptême. L'onde des ruisseaux parisiens est rarement claire. Comme Ferdissoun fut baptisé non loin d'une station de voiture, l'avocat du diable insinuera que cette eau ne fut peut-être que du pissat de cheval. Si cette opinion prévaut, il sera avéré que Gabriel Ferdissoun n'a jamais été baptisé. Et en ce cas, mon Dieu, nous savons tous que l'enfer est pavé de bonnes intentions.